Je m'appelle Salvatore D'Onofrio, je suis professeur d'anthropologie à l'Université de Palerme et membre correspondant du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Mon livre « L'esprit de la parenté » traite foncièrement du problème de la prohibition de l'inceste et notamment de l'inceste du troisième type par référence aux deux autres qui ont été isolés, étudiés par Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier. Vous savez, le problème de la prohibition de l'inceste est un problème majeur, non seulement en anthropologie, c'est-à-dire chez des professionnels qui étudient, qui font un discours sur l'homme, mais c'est le problème des sociétés humaines, parce qu'il n'existe pas deux sociétés qu'il n'est pas une prohibition quelconque de relations sexuelles ou dans le choix du mariage, du conjoint, qui n'est prohibi certaines personnes. Hein, ou bien d'autres sont prescrits. C'est obligatoire d'épouser certaines personnes, alors qu'avec d'autres, on ne peut pas. Comme le disait Lévi-Strauss, auquel on doit, comment dirais-je, le discours le plus important à l'époque, à les années 50, sur la prohibition de l'inceste, cette règle, parce qu'il s'agit d'une règle avec le R majuscule, si vous voulez, fait le pont entre la nature et la culture, dans le sens que se perd par la prohibition de l'inceste, que l'homme passe de sociétés humaines qu'on ne peut pas appeler encore des véritables sociétés, parce que tout était permis, hein, à des véritables sociétés humaines dont les relations sont réglées par cette prohibition. Et ce qui ouvre aussi à la possibilité de l'exogamie, hein, c'est-à-dire à la prohibition de l'inceste, correspond aussi l'injonction de se marier dehors, en dehors de son propre groupe, et donc la possibilité d'échanger, hein, la possibilité d'une réciprocité. Lévi-Strauss rappelle par exemple une phrase du célèbre anthropologue anglais Edward Barnett Taylor qui disait « It's better to marry out than to be killed out ». Il vaut mieux de se marier dehors que d'être tué dehors. Donc, par la prohibition de l'inceste et l'exogamie, une pacification arrive entre les membres de sociétés différentes et qui partagent un même territoire, qui à un moment donné choisissent de faire la paix, hein, en échangeant les femmes plutôt de continuer à se battre. Pour Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste est foncièrement la prohibition de relations sexuelles de mariage entre consanguins, selon la manière dont on aperçoit la consanguinité dans les différentes sociétés humaines. Pour Françoise Héritier, qui a renouvelé le champ, existe aussi une prohibition de l'inceste du deuxième type, comme elle l'appelle, c'est-à-dire la prohibition de l'inceste entre deux personnes de même sexe consanguins qui partagent une troisième personne. Hein. Par exemple, une femme et sa sœur qui partagent le même homme. Hein. Ce n'est pas seulement un adultère, c'est l'inceste, parce que cet homme met en conjonction, par les fluides du corps, met en conjonction les deux sœurs. Hein. Françoise Héritier a trouvé que cette prohibition existait dans beaucoup de sociétés humaines, non seulement exotiques, mais aussi de notre propre passé culturel à nous. Hein. Y compris dans l'Ancien Testament, etc. La modalité de l'inceste, que j'ai mis au jour, en quelque sorte, du troisième type, c'est l'inceste entre des personnes qui ne sont pas entre elles ni consanguins ni affins. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de consanguinité. Et dans l'horizon chrétien, c'est par exemple le compère et la commère, c'est-à-dire la commère, la mère d'un enfant, le compère, c'est l'homme, la personne qui a baptisé cet enfant. Entre la mère de cet enfant et la personne qui a baptisé cet enfant, son parrain, il n'y a aucune possibilité de relation sexuelle, ni de mariage, sauf une dispense de l'Église, comme pour le mariage entre cousins. C'est ce qui est intéressant, et que cette prohibition de l'inceste nous permet de faire un discours, disons, sur l'aspect symbolique de la prohibition, hein, et d'enregistrer, de montrer que dans d'autres sociétés humaines, en dehors de l'horizon chrétienne, des prohibitions existent de relations sexuelles et de mariage qui ne passent pas par la consanguinité ni par l'alliance. J'ai cherché aussi dans mon livre, L'esprit de la parenté, et qui a une préface de Françoise Héritier, j'ai cherché de voir, de montrer quelles sont les retombées de cette prohibition, par exemple, dans des fêtes populaires, celles notamment qui mettent en scène la Sainte Famille, Jésus, Joseph et Marie. Hein? Pourquoi ? Parce que toute la terminologie, comme père, comme mère, parrain, filleul, hein, que l'on connaît au sein de la parenté spirituelle, symbolique, sur laquelle j'ai travaillé, et les relations, les interdictions qui relèvent de la parenté spirituelle, on n'en a pas trace dans les évangiles. Et donc, les anthropologues fonctionnalistes pensaient que c'était au cours du temps, des conciles, que ces prohibitions et cette terminologie se mettent en place. Ça, c'est vrai, mais c'est ce que j'ai proposé, c'est de regarder justement dans les évangiles, le modèle, de trouver dans les évangiles le modèle fondant ces relations, ces prohibitions et cette terminologie, et notamment dans la conception virginale du Christ par le Saint-Esprit et dans la fonction de père social de Joseph à côté de Marie, avec laquelle il partage une relation qui on peut apparenter à celle entre frère et sœur plutôt que mari et femme. Bon, dans les relations qui se mettent en place avec la parenté spirituelle, qui compose un atome de parenté spirituelle, bon, j'élaborais ça à la suite de l'atome de parenté de Lévi-Strauss, c'est-à-dire entre un père, une mère, un enfant et le parent spirituel. Alors, entre ces personnes, il y a des relations qui rassemblent beaucoup, hein, à celle que la tombe de parenté met en place par la présence de l'oncle maternel. Dans les sociétés chrétiennes, cette figure de l'oncle maternel est remplacée par la figure du parrain. Et dans d'autres sociétés humaines, ça va de même. L'autre champ dans lequel, dans mon livre, L'esprit de la parenté, j'ai essayé de voir quelles étaient les retombées de cette structure, c'est la littérature française du Moyen-Âge. Notamment, j'ai essayé de voir et de montrer qu'est-ce qu'il en est de ces relations dans le roman de Renard et dans la chanson de Roland. Par exemple, le roman de Renard, c'est le premier lieu de la littérature romane, et notamment française, où il est question de relations entre les deux compères, le loup Isengrin et Renard, le goupil, hein, et avec la femme du loup Isengrin, Hersan, avec laquelle Renard échange les appellatifs de compère et commère. Et leur relation est soumise. Bon, Renard, c'est un personnage qui se moque en quelque sorte des relations établies de manière institutionnelle par l'Église, dans la société. C'est la parodie des romans chevaleresques. Et donc, il y a une parodie des relations de parenté spirituelle entre Renard et la femme du loup. Hein? Aussi, dans la chanson de Roland, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à la suite de traditions légendaires qui existaient en France, Charlemagne n'est pas véritablement l'oncle maternel de Roland, mais il en est le père. Parce que le père a à la suite une relation incestueuse avec sa sœur, de Charlemagne avec sa sœur. C'est pour cela que Roland est en quelque sorte un personnage œdipien qui doit mourir et qui ne meurt pas d'une blessure de l'autre, des Saracens, Hein. En réalité, c'est, à l'époque, c'était des Basques, des Gascons, hein, mais qui meurent de l'intérieur lorsqu'ils sonnent pour la troisième fois le cor, hein, à Roncevaux. Et finalement, Charlemagne, son oncle, y croit, et court pour le sauver, mais lui, il était déjà mort. Voilà. Dans cette histoire, les relations de parenté spirituelle se mêlent et on ne peut les comprendre que bon, si on va directement au cœur de ces relations. C'est ce que je pense avoir fouillé, hein, fouillé, bon, montré peut-être aussi, bon, en travaillant sur ces histoires de compère, commère, parraine, filleule, sur la parenté spirituelle et l'inceste qu'elle implique.